VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 10 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, 4 personnes ont été tuées hier, au premier jour d'un mouvement de désobéissance civile.
Au Gabon, le président Ali Bongo s'est exprimé ce week-end pour la première fois en public depuis son retour de convalescence en avril dernier.
Au Libéria, ultimatum des organisateurs de la manifestation de vendredi contre le président George Weah, il a un mois pour satisfaire leurs revendications.
En Haïti, des milliers de manifestants sont descendus hier dans la rue à Port-au-Prince pour exiger la démission du président Jovenel Moïse.
À Hong Kong, une manifestation monstre contre un projet de loi d'extradition vers la Chine a été marquée hier par des heurts avec la police.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La campagne de désobéissance civile lancée au Soudan par les leaders de la contestation a démarré sur fond de violence. Selon des sources proches des manifestants, plusieurs personnes ont été tuées dimanche au premier jour de cette campagne visant à forcer les militaires à céder le pouvoir aux civils. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Les leaders de la contestation ont accusé dimanche les militaires du Conseil de transition d'être responsables de la mort de 4 personnes durant la manifestation marquant le lancement de la campagne de désobéissance civile. 2 personnes ont été tuées par balle dans la capitale Khartoum et à Omdurman, non loin de Khartoum. Les 2 autres ont succombé dans un hôpital d'Omdurman aux sévices subis plus tôt dans la journée. Elles avaient été battues et poignardées selon le comité des médecins proches de la contestation. La même source fait état de 118 morts et plus de 2 demi-milliers de blessés depuis la répression le 3 juin dernier du sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. La rue soudanaise réclame depuis le départ d'Omar el-Béchir que les généraux remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Mais les pourparlers entre les 2 camps ont été interrompus et les nouveaux actes de violence ne rassurent pas quant à l'éventualité d'une solution dans les prochains jours.
Au Gabon, le président Ali Bongo s'est exprimé ce week-end sur l'état de la nation. Monsieur Bongo, qui se remet de son accident vasculaire cérébral, a dénoncé la gabegie et la corruption au sein de l'administration publique. Et il a appelé son premier ministre à former un nouveau gouvernement. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Il ne s'était pas exprimé en public depuis son retour de convalescence en avril dernier. Ali Bongo vient de rompre le silence en déclarant qu'il sort de loin.
Je viens de traverser une période difficile de ma vie. Vaincre de telles épreuves renforce votre détermination à poursuivre vos aspirations et à tout mettre en œuvre pour les concrétiser.
Bien que se battant encore avec les séquelles de la maladie, le président gabonais pointe du doigt les travers de l'administration publique avec des hauts cadres plutôt soucieux de leur enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.
Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdise de récolter les fruits des efforts colossaux et multiforme que l'État a consenti.
Comme remède à cette situation, Ali Bongo Ondimba a demandé à son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. L'équipe actuelle va rester pour liquider les affaires courantes. Depuis Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la coalition qui lie le nouveau président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila a connu ces derniers jours un nouvel accès de fièvre en marge de leur tractation pour constituer un gouvernement. En minorité à l'Assemblée, les députés du groupe parlementaire pro-Tshisekedi, Cap pour le changement, ont accusé la majorité pro-Kabila du Front commun pour le Congo d'outrage et de propos injurieux envers l'actuel président lors d'un débat vendredi après-midi à l'Assemblée. Cette majorité critiquait 2 nominations sur ordonnance du président Tshisekedi, notamment celle du vieil opposant Antoine Gabriel Kyungu Waku Mwanza, qui est âgé de 80 ans, au poste de président du conseil d'administration de la Société des chemins de fer congolais.
Au Libéria, le Conseil des Patriotes, collectif des organisateurs d'une manifestation de milliers de personnes vendredi contre la gestion du président George Weah, a annoncé dimanche lui accorder un mois pour satisfaire leurs revendications. Lors de la dispersion du rassemblement, les organisateurs avaient appelé à une nouvelle manifestation ce lundi, déplorant notamment de n'avoir pu remettre leur cahier de doléances à M. Uéa et ou à sa vice-présidente Jewel Howard Taylor, ex-épouse de l'ancien chef de guerre et président Charles Taylor.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. En Haïti, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale, Port-au-Prince, dimanche, pour protester contre la corruption et exiger la démission immédiate du président Jovenel Moïse. Au moins une personne a été tuée par balle, selon les agences de presse. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Les opposants au président Jovenel Moïse avaient annoncé cette journée de manifestation la semaine dernière, disant que le mouvement ne s'arrêterait pas tant que le pouvoir en place n'aurait pas cédé à leurs revendications. Ils réclament notamment le départ et la mise à la disposition de la justice du président Moïse, impliqué par la Cour supérieure des comptes dans un scandale lié au programme Petro-Caribe. Initié en 2005, ce programme accorde aux membres un traitement préférentiel pour les achats de pétrole vénézuélien et une option de paiement en nature. Un manifestant marchant avec un groupe près du palais national a dit à VOA, et nous citons, ce système de style mafieux ne sert pas les jeunes. Des coups de feu ont été entendus dans certains des points de la capitale, forçant les manifestants à se mettre à l'abri. L'AFP a fait état d'au moins un mort et de plusieurs arrestations au centre-ville. Le président Jovenel Moïse a nié toutes les allégations de la Cour des comptes. Les manifestants ont promis de continuer à marcher non-stop jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Des manifestations ont été également signalées dimanche dans le sud, le sud-ouest et le nord d'Haïti.
Et à Hong Kong, des centaines de milliers de personnes ont marché dimanche contre un projet du gouvernement local d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Aucun incident n'avait été signalé au cours de la journée, tandis que près d'un million de manifestants criaient leur opposition à la nouvelle loi d'extradition. Cependant, des heurts ont éclaté peu après minuit, selon des journalistes sur place. Un bilan définitif n'était pas disponible immédiatement, mais les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre auraient fait des victimes. L'AFP rapporte qu'au moins un policier a été vu avec du sang sur le visage. Selon ses détracteurs, le projet de loi d'extradition que les autorités locales de Hong Kong espèrent adopter d'ici la fin du mois placera la population à la merci d'un système judiciaire chinois qu'ils jugent politisé. La manifestation du dimanche 9 juin était l'une des plus massives depuis que la Grande-Bretagne a remis le territoire à la Chine en 1997. L'accord de rétrocession accorde à l'ancienne colonie britannique, et ce jusqu'en 2047, une semi-autonomie et des libertés qui n'existent pas en Chine continentale.
Le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong a annoncé ce lundi qu'il ne comptait pas retirer le projet de loi sur les extraditions vers la Chine. C'est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale, a déclaré aux journalistes la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam.
Ici, aux États-Unis, les adversaires démocrates du président Donald Trump ont minimisé hier l'accord auquel il est parvenu vendredi soir avec le Mexique pour juguler l'arrivée d'immigrés clandestins. Il avait menacé d'user dès aujourd'hui de taxes douanières contre Mexico pour l'obliger à durcir sa politique envers ces migrants se dirigeant vers la frontière américaine. Les démocrates, dont le sénateur et candidat à la présidence Bernie Sanders, ont dénoncé ce qu'ils ont appelé les guerres commerciales permanentes du président américain contre ses alliés. En revanche, les partisans de M. Trump, dont le sénateur républicain Ron Johnson, ont salué un succès obtenu, je cite, « de manière brillante en utilisant les tarifs douaniers comme moyen de pression ». Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute. Techo, Nanit Talani.
En 2019-2020, les expéditions de café en Éthiopie devraient atteindre environ 4 millions de sacs, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à la campagne précédente. Cette amélioration résulte de la hausse de la production à 7,35 millions de sacs du fait des bonnes pluies et de la baisse de la prévalence des maladies du caféier. Les caféiculteurs éthiopiens doivent toutefois faire face à de nombreux défis, dont celui de s'orienter vers la culture du cat. Cette plante peut être récoltée 3 à 4 fois durant l'année et fournit des revenus plus conséquents comparativement au café. Le gouvernement guinéen a conclu avec la société indienne Achapura une convention pour développer le projet de fer de Forecaria. Précédemment détenu par Forecaria Guinea Mining, le projet a été placé sous liquidation parce que la société manquait de moyens et a été déclaré insolvable en 2014. Selon le nouvel accord entre la Guinée et Achapura, celle-ci relancera l'exploitation de la mine de fer de Forecaria, réhabilitera le port de Konta et aménagera de nombreuses autres infrastructures. Terminons avec le Zimbabwe où l'Office de commercialisation des céréales va lancer un appel d'offres pour acquérir 750 000 tonnes de maïs sur le marché mondial. Cette opération d'achat, qui sera la plus importante depuis la saison 2016-2017, résulte des mauvaises perspectives de production de maïs pour la saison 2019-2020. En effet, la récolte devrait plonger de 54% en raison de la sécheresse et des dommages liés au cyclone Idai qui a frappé le pays en mars dernier.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football féminin pour commencer avec la Coupe du Monde en France. Mauvais départ pour les représentantes africaines.
Oui, les Nigérianes championnes d'Afrique ont explosé contre la Norvège, défaite 3-0. L'Afrique du Sud, pour le premier match de son histoire, la Coupe du Monde féminine, a été renversée 3-1 par l'Espagne. Le Cameroun, dernier représentant africain, entre en lice ce lundi et tentera donc de faire mieux face au Canada.
Football chez les hommes cette fois. Et il n'y a plus d'équipe africaine au mondial des moins de 20 ans en Pologne.
Le Mali et le Sénégal n'iront pas plus loin que les quarts de finale dans cette compétition. Au lendemain de la défaite des Aiglons 4-2 contre l'Italie, les Lionceaux de la Teranga, demi-finaliste il y a 4 ans, ont perdu au tir au but 3-2 face à la Corée du Sud.
Toujours en Europe avec la Ligue des Nations, le Portugal gagne la finale contre les Pays-Bas.
La sélection de Fernando Santos a dominé les Pays-Bas 1-0 à Porto. L'unique but du match a été signé Gonzalo Guedes à la 60e minute. Le champion d'Europe 2016 devient la première nation à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Plus tôt, l'Angleterre avait gagné le match pour la 3e place contre la Suisse à l'issue de la séance des tirs au but.
La CAN en Égypte, c'est dans 11 jours. Certaines sélections jouent des matchs amicaux.
Et pour son premier match de préparation à cette CAN, la RD Congo a enregistré le nul 0-0 devant le Burkina Faso, le Cameroun et le Ghana. Tous adversaires du Bénin dans le groupe F ont également joué hier. Les Lions indomptables tenant du titre se sont inclinés 2-1 face à la Zambie. Les Black Stars de leur côté ont été battus par la Namibie, score 1-0. Le Bénin joue aujourd'hui face à la Mauritanie et puis l'Algérie va en découdre avec le Burundi.
Élisée, fin de saison au Cameroun, c'est finalement l'UMS qui sort champion.
Effectivement Idrissa, après avoir obtenu le nul 0-0 devant Coton Sport de Garoua, le club de Loum termine la saison en tête avec 10 points, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Remportant sur le coup son deuxième titre de champion du Cameroun, Coton Sport, deuxième avec 9 points, doit désormais se focaliser sur la Coupe du Cameroun pour espérer sauver sa saison et décrocher l'unique place africaine en jeu en Coupe des Confédérations.
On reste au Cameroun pour parler de la fin hier de la 16e édition du Tour cycliste.
Oui, une course remportée par le Bulgare Radoslav Konstantinov. La 8e et dernière étape disputée hier entre Bafia et Yaoundé a vu la victoire du coureur local Clovis Kamzong Abosolo au classement général. C'est donc Konstantinov qui termine en vainqueur final avec 20 secondes d'avance sur l'Ivoirien Issiaka Cissé. Il succède donc au Rwandais Bonaventure Uzeyimana.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, qui est au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique, et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Ondes Courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le débat s'intensifie entre partisans et opposants à une nouvelle constitution. Le Front National pour la Défense de la Constitution a publié une liste de personnalités qu'il qualifie de cerveau d'un coup d'État constitutionnel en préparation en Guinée. Ce à quoi a réagi le parti au pouvoir en accusant ses adversaires de ternir l'image du pays. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara fait le point.
Parmi les 20 personnalités citées par le Front National pour la Défense de la Constitution, il y a les noms des amis au président Alpha Condé qui font réagir le parti au pouvoir. La mouvance présidentielle regrette la mise en cause d'Albert Bourgi ou encore de Maître Boukounta Diallo, entre autres. Plusieurs ministres guinéens sont visés par cette publication que le ministre du Budget lui-même a cité, qualifie de plaisanterie. Ismaël Djoubaté.
Moi, je considère ça comme des plaisantins. Vous voulez la démocratie et vous posez des actes antidémocratiques. Chacun est libre de dire oui, je veux une constitution ou non, je ne veux pas une constitution. Ce n'est pas un crime, c'est un jeu démocratique. Moi, ce n'est pas une liste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet de société du président Alpha Condé qui, pour l'essentiel, satisfait aujourd'hui le peuple de Guinée. Ceux qui prétendent que le peuple est avec eux, alors on peut aller au référendum.
Le référendum qu'on veut proposer aux Guinéens sonne dans le camp des opposants comme un frein à l'alternance démocratique en 2020 en Guinée. Composé d'acteurs activistes de partis politiques et des organisations de la société civile, le FNTC entend mener des actions pour éteindre toute velléité de changement constitutionnel. Abdourah Mansano, coordinateur.
La publication des photos des ennemis de la Guinée se poursuivra pour que les responsabilités des uns et des autres soient situées en temps opportun. Aucune manœuvre dilatoire ne saurait détourner le FNTC des objectifs fixés au service de la défense des intérêts du peuple.
Pour Sidi Touré, ancien premier ministre et opposant au régime d'Alpha Condé, il n'y a aucune opportunité de changer la constitution guinéenne. Le président de l'UFR insiste à son tour sur la nécessité d'une alternance en 2020.
La totalité de nos compatriotes aujourd'hui vit dans la misère absolue. C'est quelque chose qui est un devoir sacré pour nous tous de faire en sorte que le changement arrive rapidement ici et cela le plus tard possible. C'est la fin du mandat en 2020.
L'actuelle constitution a été établie sans référendum en 2010. Le RPG arc-en-ciel, parti au pouvoir, se défend qu'il est temps de laisser le peuple décider. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Bénin, la main tendue par le président Patrice Talon aux forces de l'opposition pour un apaisement de la situation sociopolitique est diversement apprécié. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
L'appel au dialogue lancé par Patrice Talon le 20 mai dernier est tout sauf une main tendue à marteler Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense du gouvernement actuel. Pour lui, le discours n'a pas été rassembleur.
C'est un discours guerrier qui n'a rien d'apaisant. Un discours qui fait l'apologie et l'éloge de l'impunité des crimes causés par les militaires. Nous devons nous unir, travailler de manière à ce que notre démocratie cesse d'être militarisée et que le pouvoir au Bénin cesse d'être un leadership de terreur.
Pour Éric Carounété, lui aussi membre de l'opposition, transition par de réconciliation possible sans que les cartes ne soient redistribuées.
Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable.
Clavet Bignon est observateur de la vie politique. Pour lui, le vin est tiré depuis que les députés ont été installés. Il invite les acteurs politiques à se tourner vers l'avenir.
On ne peut pas revenir en arrière et donc c'est un acquis désormais que l'Assemblée nationale, mise en place, doit pouvoir faire un travail qui sera conséquent. Il fait des ouvertures et ces ouvertures, c'est à l'endroit de l'opposition notamment. Et donc la voie du dialogue, elle est là.
Et c'est dans ce climat de main tendue rejetée qu'une convocation du juge a été envoyée jeudi au président Bouniaï afin de l'écouter sur les violences survenues au lendemain des élections avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. L'avocat de Bouniaï dénonce un acharnement et une séquestration morale de son client en résidence surveillée selon lui, maître René Agodjo.
C'est un abus, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la sécurité, c'est à la limite une torture morale. Ce n'est pas trop hasardeux de parler d'une séquestration. Encore que les rares personnes, le kiné, le médecin et moi-même qui avons quelquefois accès à M. Bouniaï, nos identités sont systématiquement relevées et compte rendu est fait à je ne sais qui.
Aux dernières nouvelles, le transfert judiciaire a été fait au domicile de l'ancien président malgré la lettre de son avocat sur sa situation sanitaire préoccupante. Mais le juge à sa sortie n'a fait aucune déclaration. Les avocats et les forces de l'opposition demandent l'évacuation sanitaire de Bouniaï pour la préservation de sa vie. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Mali, pour la seconde fois, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi prolongeant le mandat des députés. Dans les conditions actuelles de sécurité, il est plutôt difficile, explique-t-on, d'organiser le scrutin. Selon notre correspondant Kassim Traoré, cette décision est diversement appréciée à Bamako.
La première prorogation du mandat des députés maliens arrive à terme le 30 juin prochain. C'est pour cela que le gouvernement a adopté un projet de loi prolongeant leur mandat jusqu'au 2 mai 2020. Amadou Abdoulaye Sy, président du parti M+ Ramata.
C'est pas la première fois que ça arrive dans notre pays. C'est arrivé en 68, en 91, en 2012, c'est la quatrième fois. Le président est élu, il s'agit de le faire accompagner de manière à ce que les décisions qui sont prises soient acceptables par tout le monde. Tout le monde sait bien qu'il est député actuel, mais ils n'ont pas de légitimité. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont envoyés à la chambre là-bas, eh bien mon vœu, c'est pour un délai qui est terminé le 31 décembre.
Le gouvernement espère que ce nouveau report permettra notamment une révision constitutionnelle intégrant des réformes prévues par l'accord de paix d'Alger. Colonel Youssouf Traoré de la majorité présidentielle.
La Cour constitutionnelle a été saisie et a donné un avis de conformité avec la Constitution. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prolonger le mandat des députés. Donc nous adhérons parfaitement à la prolongation des mandats des députés.
C'est politique, mais c'est l'option qui est assez confortable parce qu'ils sont déjà là, parce que c'est l'option qui est favorable au contexte.
Mohamed Draman Traoré, secrétaire général du parti FAD.
Le président, dans l'article 74 de la Constitution, a la possibilité de prendre les lois par ordonnance dans un délai limité. Donc, s'il se sent incapable d'organiser les élections législatives dans une période donnée, il peut demander à l'Assemblée nationale de lui donner peut-être une durée d'un an pour qu'il puisse légiférer à travers les ordonnances qui sera constatée par la Cour suprême.
Pour les partis politiques de la majorité présidentielle, la prorogation est la bienvenue.
Il est normal que l'Assemblée soit reconduite dans ses fonctions. C'est la position du mouvement que je représente.
La prolongation du mandat des députés, oui, mais avec un chronogramme bien déterminé. Comme ça, on a des députés déjà qui ont été élus à la base, ça serait mieux de prolonger leur mandat au lieu qu'on propose les constituants.
Plusieurs organisations de la jeunesse se sont réunies pour mettre en place le Parlement populaire du peuple. Une manière d'empêcher cette seconde prorogation des mandats. Pape Diallo, membre du PPP.
Effectivement, donc comme Ouya Soumar à Kouya Moussali, ils sont autoprogrammés députés de la nation. Nous aussi, nous allons mettre en place nos parlements, là où aussi nous tous nous serons députés au Mali. Donc s'ils votent leur loi, nous aussi nous allons voter notre loi. Donc c'est dans le rapport de force que nous serons qui aura la victoire.
Le projet de loi en question doit passer par l'Assemblée nationale avant d'être une loi organique applicable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Au Tchad, la problématique de l'emploi se pose avec acuité. L'intégration à la fonction publique est gelée depuis 2016 par le gouvernement, ce qui a obligé de jeunes diplômés chômeurs à s'organiser pour créer de petites entreprises pour leur survie. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, a fait un tour dans quelques salons de coiffure gérés par certains de ces chômeurs dans la capitale tchadienne. Son reportage.
Cette ambiance n'est pas celle d'un maquis, non plus d'une boîte de nuit, mais plutôt d'un salon de coiffure, une initiative des jeunes chômeurs. Pendant qu'un groupe de diplômés sans emploi issus des écoles professionnelles et universitaires forme une coalition pour revendiquer leur intégration à la fonction publique, d'autres créent de petites entreprises pour se prendre en charge.
Si vous n'avez pas un handicap, il faut se battre. La fonction publique n'est pas là pour absorber chaque année les milliers de jeunes qui se forment.
Dita Magloire est diplômé de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Il chôme depuis 9 ans, fatigué d'attendre son intégration à la fonction publique, lui et 5 autres diplômés sans emploi créent un salon de coiffure. Il se fixe un pourcentage journalier qui varie entre 200 et 250 francs CFA selon le modèle de coiffure par client. Il confirme à VOA Afrique qu'il s'en sort bien avec ce métier.
Les recettes varient. De lundi à jeudi, la recette totale de quoi c'est 20 000, 15 000 par jour. Mais les week-ends, ça va un peu. Et surtout les week-ends de fin de mois. Dans la tête d'un Tchadien, quand quelqu'un est cordonnier, il est coiffeur, on dit non, c'est un sous métier. Moi, je dirais que ce n'est pas un sous métier.
Moïse Ndondo, un autre jeune diplômé en physique chimie, est en chômage depuis 5 ans. Comme les autres, la porte de la fonction publique ne s'ouvre pas pour lui alors que les hautes autorités ont déploré l'année dernière le faible taux des admis au baccalauréat série scientifique. Ne sachant que faire, il crée lui aussi un salon de coiffure et emploie 6 personnes. Il offre plusieurs services aux clients.
Nous coiffons, nous faisons le traitement des cheveux et des soins des visages. Le métier de coiffure, c'est un métier rentable qui peut donner à manger à celui qu'il exerce avec professionnalisme. On n'a pas encore fini de transformer notre société. Donc, il y a toujours à faire. Ça ne vaut la peine de rester sous un nid, attendre que les portes de la fonction publique s'ouvrent.
Quelques coiffeurs rencontrés tondeuses à la main se disent eux aussi très fiers d'exercer ce métier qui leur permet d'être autonome.
Je me sens très bien à l'aise. Par exemple, s'il y a des jours où on coiffe beaucoup, je peux rentrer avec un 3000, 4000. J'ai ma maman et mes cadets, donc c'est avec ça que je m'occupe. C'est très difficile d'avoir accès à la fonction publique. Donc, je pense qu'il faut que chacun de nous prenne conscience.
Je suis coiffeur depuis 2009 et c'est avec ce petit métier que je prends ma famille en charge. Ça nous aide à devenir autonomes.
La tendance est à l'entrepreneuriat, seule possibilité pour offrir de l'emploi aux milliers de jeunes chômeurs. Mais il n'est pas facile d'entreprendre au Tchad en raison de la pression fiscale de tout genre et du climat des affaires. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
En République démocratique du Congo, l'Association africaine des droits de l'homme, la SADO, plaide pour l'amélioration des conditions salariales des magistrats congolais afin de garantir leur indépendance. Depuis 2011, les magistrats de la RDC revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Reportage de notre correspondant Ernest Muhero.
C'est en réaction au tout dernier mémo signé par 35 magistrats du Sud-Kivu et adressé au Conseil supérieur de la magistrature que maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme, a réagi en fustigeant le fait que cela fait plus de 8 ans que les magistrats congolais continuent à réclamer sans succès de meilleures conditions salariales.
Nous sommes contents en tant qu'organisation de droits de l'homme que les magistrats du Sud-Kivu aient pris le courage d'adresser un mémo au Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer le fait que les budgets consacrés au pouvoir judiciaire est réparti de manière injuste. 30% consacrés au salaire des magistrats alors que 70% sont consacrés au fonctionnement des institutions judiciaires. Or, quand nous regardons que les magistrats achètent eux-mêmes les papiers, les stylos, les laptops, ainsi que tout le nécessaire pour faire fonctionner leur bureau. Cet argent va où?
Dans les mémos des magistrats, ils avaient épinglé, entre autres, une rémunération insuffisante ne pouvant assurer une bonne prise en charge de leur famille. Pour maître Katende, le tableau est sombre.
Ces conditions mauvaises poussent les uns à mendier auprès des justiciables et d'autres à se faire corrompre carrément avec cette incidence que les droits des justiciables sont violés, l'administration de la justice est inféodée à la corruption. C'est pour ça que nous avons fait des recommandations au président de la République qui doit pouvoir s'impliquer dans la gestion de l'argent destiné à la justice.
Pascal Mupenda, directeur des programmes de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée PPI, lance un appel au chef de l'État congolais qui a promis de s'investir dans la lutte contre la corruption et autres antivaleurs.
C'est une exhortation de plus que nous lançons. Il faut qu'on ait une bonne justice, et cette bonne justice qui doit élever la nation doit d'abord être animée par les femmes et hommes qui sont à l'abri de toute tentation. On ne peut pas penser à endiguer la corruption au niveau de la République démocratique du Congo sans que l'on ait une justice indépendante.
Signalons qu'en République démocratique du Congo, depuis 2011, il y a déjà eu des marches de protestation, des concertations, des grèves des magistrats indignés par leur situation socio-professionnelle. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.